Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, un podcast France Télévisions, bien sûr. Le podcast des maternelles est aujourd'hui un sujet très fort abordé dans notre émission. On a parlé des femmes de militaires, ou en tout cas des femmes de papa qui ont des professions à risque, des femmes d'hommes qui partent en mission loin, et avec bien sûr toutes les questions que ça peut soulever et les angoisses aussi. Donc dans cet épisode, vous allez entendre le témoignage de Nadia. Nadia qui est la maman de 3 enfants qui ont 6 ans, 4 ans et 18 mois. Son conjoint est militaire dans l'armée de terre et il arrive qu'il soit absent jusqu'à 7 mois sur 12 par an. Donc vous imaginez les questions que cela peut poser. Donc on va entendre son témoignage et après nous serons avec Sabrina Varvara qui est psychologue et qui travaille fréquemment avec des familles de militaires.
Alors c'est vrai que régulièrement au JT nous parviennent des informations et des annonces de militaires français qui sont blessés ou qui sont même morts au combat. Ce sont souvent des pères de famille. Ce matin dans la maison des maternelles, on avait envie d'entendre la voix de leurs épouses, des mères de famille dont le conjoint exerce un métier à haut risque, qui doivent gérer l'attente, qui doivent gérer l'angoisse, qui doivent gérer aussi leurs enfants, leurs questions. Bonjour Nadia.
Bonjour.
On l'a dit tout à l'heure en introduction, vous êtes vraiment une héroïne. Vous faites partie des super mamans. Je voulais déjà vous le dire et vous remercier aussi d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes la maman de Neila qui a 6 ans, Elia qui a 4 ans et Elias qui a 18 mois. Votre conjoint, il est militaire dans l'armée de terre et parfois il est absent jusqu'à 7 mois sur 12. Donc c'est énorme. Donc la charge mentale, c'est vous qui l'avez, hein. Il faut quand même le dire que c'est là vraiment vous qui portez tout, quoi.
Effectivement, je connais bien.
Là, vous êtes en couple avec votre conjoint depuis 13 ans, puis le lycée, et avant, et d'ailleurs avant qu'il devienne militaire, hein, vous l'avez rencontré. Donc vous ne l'avez même pas, je dirais, épousé en connaissance de cause. Pendant votre première grossesse, est-ce qu'il a pu s'investir autant que vous? Est-ce qu'il a pu être là aux premières échographies? Est-ce qu'il a pu vous tenir la main ou pas?
Alors malheureusement non, il a été beaucoup absent, notamment quand j'ai appris que j'étais enceinte de Neila. Il était sur un terrain, donc je l'ai appelé pour lui annoncer la nouvelle, puisque j'étais trop impatiente de lui annoncer. Et à 3 mois de grossesse, il est parti à l'étranger pour 4 mois. Ça a duré un peu plus longtemps d'ailleurs, c'était 4 mois à la base, mais il s'est ajouté à peu près 3 semaines. Et du coup, il a loupé tout le suivi de grossesse. Il a loupé les achats, achats pour la petite, etc. Même si je lui ai envoyé des messages, que je le tenais au courant, des photos de moi. À son retour, il y a eu un petit blocage quand même. Je pense que ça restait très virtuel. Et il a réalisé, en arrivant, que oui, il y a un bébé.
Oui, parce que évidemment, aujourd'hui, on va se concentrer sur vous, mais pour eux aussi, c'est très compliqué, j'imagine, de créer les liens, et puis surtout pour une première grossesse, de réaliser qu'on va devenir papa. Alors, c'est chouette parce que vous avez accouché l'été. De ce fait, il a pu avoir quelques vacances, 1 mois et demi même, c'est quand même beaucoup, vu le contexte. Et puis après, les premiers départs sont arrivés. Comment ça s'est passé pour vous et pour Neila?
Les premiers départs, c'est des petits départs de 15 jours. Enfin, du coup, oui, petit départ, c'est 15 jours quand même. Ça fait peur quand on devient maman de se retrouver seule avec un bébé, puisque je l'ai suivi dans la région où il travaille. Et donc, moi, je connaissais personne, ni famille, ni amis. Donc, vraiment, je me suis retrouvée complètement seule à chaque départ.
Oui, ça, c'est horrible. Et justement, quand il part comme ça de nombreux mois, combien de temps au maximum est-ce que vous pouvez rester sans nouvelles de lui? Aucune.
Ça peut être 3 semaines à 1 mois, sans nouvelles.
Sans coup de fil, sans rien. Mais donc vous devez vous mettre la rate au courbouillon.
Effectivement, c'est très stressant parce qu'on se demande où il est, ce qu'il fait, s'il va bien, s'il a mangé, s'il est en bonne santé.
Vous êtes accroché aux infos?
Pas tellement.
Vous vous protégez? Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour essayer d'adoucir cette attente?
Alors, on se donne beaucoup de nouvelles quand il peut en donner. Il me prévient, il me dit « je vais partir en mission, donc je ne te donnerai pas de nouvelles pendant tant de temps ». Et là, on s'occupe. On voit d'autres mamans...
Qui ont aussi des conjoints, qui sont avec votre conjoint dans la même mission.
Voilà, qui sont partis aussi. On se soutient, on fait des activités tout ensemble. On occupe les enfants comme on peut. Il y a un petit kit que l'armée nous fournit pour les enfants. de militaires, avec des autocollants sur les émotions, des calendriers, enfin des activités à faire avec eux. Et ça permet justement de passer le temps.
Et oui. Ben oui. Vous avez eu des moments de grande frayeur pendant certaines opérations extérieures ?
Alors oui, malheureusement, ça arrive trop souvent. Il est parti en opération en Afrique et il s'est passé un drame là-bas. Donc des militaires qui ont laissé la vie. Et quand on apprend la nouvelle, c'est obligé, hein, on a peur, on s'inquiète. Même si on sait qu'il n'a pas son téléphone, c'est plus fort que nous. On envoie un message, on appelle, on attend, on se contacte entre nous, entre femmes de militaires, savoir si quelqu'un a des nouvelles. Et puis, on finit par en avoir. On est rassuré, mais ça ne dure pas longtemps. Parce que d'un coup, ça nous remet en pleine face que demain, c'est peut-être lui. Mmh. Et que peut-être, il reviendra jamais.
Je vous admire beaucoup. Votre conjoint, il a pu être assez présent pendant votre deuxième grossesse. Donc ça, c'était bien. Mais sur les 15 premiers mois de vie d'Elia, il a été là que 3 mois en tout. Est-ce que c'est arrivé que votre fils se plaigne un petit peu en grandissant des absences de son papa ?
Alors, il a fêté ses 4 ans le mois dernier. 4 ans, 4e anniversaire où papa n'est pas présent. À l'âge de 2 ans à peu près, on lisait une histoire. Et Elijah me dit... moi aussi, je suis en colère, maman. Et alors, je lui ai demandé, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, il me dit, parce que papa, il n'est jamais là. Ça fait mal de l'entendre, parce que moi, j'essaye de faire tout mon possible pour combler cette absence.
Adoucir le manque.
Voilà. Et avec mes mots, j'essaye de le rassurer en lui disant que même si papa n'est pas là, il pense à lui tous les jours, tout le temps, qu'il est là dans son cœur, que... Voilà, qui peut regarder les photos si papa lui manque, qui peut m'en parler aussi, tout simplement.
Alors, grâce au confinement, vous avez pu passer du temps en famille. Ça a dû vous faire bizarre de l'avoir aussi longtemps. Et vous étiez au même moment enceinte de votre 3e enfant. Est-ce qu'il a pu être là pour votre 3e accouchement ?
Alors oui, mais c'est un coup de chance. Parce qu'il était parti sur un terrain, censé rentrer le vendredi, et puis jour férié le jeudi, donc il est rentré un jour plus tôt, le mercredi. Et là, je dis, grosse douleur, je lui dis, il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on aille aux urgences. Et puis, code rouge, césarienne en urgence, bébé arrive. Et heureusement qu'il était là, puisqu'il a pu prendre une photo de mon fils. Moi, j'étais en anesthésie générale, donc je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé et je n'ai pu le rejoindre que 4 jours plus tard, puisqu'il a été transféré dans un autre hôpital à plus d'1 heure de route de là où on vit. Donc, c'est papa qui a pris le relais.
Alors, il était là au début, mais après, comme il était très, très grand, prématuré, vous aviez encore des doutes sur sa survie. Et puis, 15 jours après la naissance, votre mari, il a dû repartir sur le terrain. Il n'y a pas un moyen d'être exempté quand on est dans un contexte comme ça. Il n'a pas pu demander à l'armée, dire, écoutez, là, j'ai un bébé qui ne va pas bien, il faut que je soutienne ma femme. Et puis, il y avait les autres enfants, quoi. Il y avait les grands.
Alors, c'est possible. Ensuite, ça dépend des personnes. Moi, il est engagé, il est à fond dans ce qu'il fait. Les terrains, ça permet d'entretenir leur savoir-faire, de s'entraîner pour les combats futurs. Donc, et puis, il a l'habitude de me laisser gérer. Ça fait 8 ans qu'il est militaire. Ça fait 8 ans qu'il me laisse régulièrement gérer les enfants, gérer le quotidien quand ils sont malades. Donc, il est parti... je dirais pas serein parce qu'il était inquiet aussi pour notre fils, mais il est parti comme d'habitude en fait, en se disant elle est là et elle va gérer.
Il s'est absenté 1 mois en tout sur les 2 mois d'hospitalisation de votre fils. Est-ce que quelque part quand même vous lui en avez pas voulu au fond de vous ?
Alors je me revois lui dire quelque chose de fort, c'est que si jamais il arrivait quelque chose à Elias, je lui en voudrais toute ma vie de pas être, de pas avoir été là. Et aujourd'hui, je m'en veux parce que ça s'est bien passé au final. Elias, il est avec nous aujourd'hui. Et je me dis que s'il était arrivé quelque chose de malheureux à Elias, il aurait pu s'en vouloir effectivement toute sa vie, alors qu'il n'y a pas de raison, parce que présent ou non, ça serait arrivé quand même.
Alors pour le moment, les enfants, bon, ils ne vous posent pas trop de questions sur les risques qui sont liés au métier de leur papa. Neyla, en revanche, votre aînée, elle vous pose beaucoup de questions sur ses missions. Ça commence, quoi.
Oui. Avant, trop petite, elle ne réalisait pas. Voilà, elle ne voit que le treillis, papa qui rentre le soir avec son uniforme. Mais il y a quelques années, il était à l'étranger. Et Michel Drucker a fait une émission en immersion avec les militaires dans le camp où se situait leur papa. Donc là, elle l'a vu, elle était très contente, on était scotchés à la télé. Mais elle a aussi vu les armes. Et elle m'a posé une question, c'est « Mais maman, il fait quoi papa en fait ? Qu'est-ce qu'il fait avec les pistolets ? Il tue des gens ?» Là, ça m'a un peu refroidie et je me suis dit « Mince, ça y est, elle commence à se poser des questions. » Donc j'ai essayé de trouver des mots rassurants. Mais bah voilà, on est un peu perdu, on ne sait pas trop comment réagir, ce qu'on peut leur dire, parce que bah, je ne veux pas l'effrayer non plus.
Alors ça fera partie des questions qu'on posera à notre psy tout à l'heure, hein, parce que c'est vrai, comment parler aux enfants ? Est-ce qu'il faut être au plus proche de la vérité ? Est-ce qu'il faut les protéger ? Moi j'ai une question, c'est que souvent quand on a un conjoint qui s'absente très longtemps, il y a tout un système de réadaptation, de réorganisation quand il revient. Et pour lui, j'imagine, qui vient de vivre des choses très fortes en plus. Et pour vous, qui avez votre petite routine, comment ça se passe, les retours ?
Alors, généralement, on essaye, au fur et à mesure de la mission, de le tenir informé de tout ce qui se passe pour les enfants, pour le quotidien. Hein, si, même s'il m'arrive de déplacer un meuble, ce que je fais d'ailleurs très souvent, je le tiens informé, je lui envoie des photos pour pas qu'il ait l'impression d'arriver et d'être chez quelqu'un d'autre, en fait. Mmh. Je veux vraiment qu'il se sente comme à la maison. Donc, on entretient au fur et à mesure de la mission ça, les nouvelles, voilà, etc. Et puis, quand il revient, c'est un rituel pour beaucoup de femmes de militaires. Il y a de la décoration, un bon repas, des dessins des enfants. Et voilà, on le met tout de suite dans l'ambiance, en fait.
Mmh. Bon, et puis vous arrivez tout de suite à le réintégrer dans votre quotidien avec les enfants.
Alors, pour le coup, je le laisse complètement avec les enfants. Ouais. J'ai besoin qu'ils rattrapent le temps perdu. Et je continue à gérer tout le reste. Mmh. Et je le laisse profiter pleinement des enfants.
C'est bien ce que je disais tout à l'heure, vous êtes vraiment une super héroïne.
Ouais, comme on dit, on est la base arrière. Oui. La maison repose sur nos épaules et ça leur permet à eux de partir et d'être à fond dans ce qu'ils font.
Bonjour Sabrina Varvara,
Bonjour. Merci
d'être avec nous. Vous êtes psychologue, formatrice, spécialiste du stress et de la gestion des émotions et vous accompagnez régulièrement des conjoints, des conjointes et des enfants de militaires. Alors on l'a vu tout à l'heure avec Nadia, dans ces métiers à haut risque, qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants et comment on le dit ? Quand les questions commencent à fuser, quand on commence à voir, c'est vrai que c'est particulier, mais papa, il tue des gens tout à coup, qu'est-ce qu'on répond à une question comme ça ?
Alors globalement avec les enfants, d'abord on ne ment pas. Il s'agit de répondre aux questions, simplement, concrètement. Le truc, c'est de pas d'en dire trop, c'est d'en dire suffisamment pour que l'enfant en puisse, l'enfant puisse après poser les questions qui le préoccupent lui. Mmh. Il faut répondre aux préoccupations de l'enfant. Alors parfois, c'est inattendu. On s'attend pas aux questions de l'enfant, mais c'est celle-ci qui compte pour cet enfant-là.
Oui,
donc
ça.
On s'adapte à l'enfant.
D'accord.
Ce qui est très important, en général, c'est pas fait dans les familles de militaires, donc c'est pour ça que je tiens à le dire, c'est important que ce soit le parent militaire qui annonce les choses. Parce que lui, il va transmettre des éléments de sécurité. Il sait pourquoi il fait ce métier, il le fait avec passion, il se forme en général depuis des années pour faire ça, il sait qu'il fait ce métier avec des collègues, il travaille en équipe, et il a envie de partir pour de vrai.
Oui.
Donc, il va transmettre des éléments de sécurité et de confiance aux enfants que le parent qui reste, lui, peut être résigné,
Malheureux de la situation et transmettre ce genre de...
Inquiet, et puis forcément, celui qui reste est forcément plus inquiet que le papa militaire qui, lui, sait que tout est mis en place pour que la sécurité soit assurée.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment le conseil.
Mmh. On a reçu une question en vidéo pour vous de Marie. Regardez.
Bonjour la maison des maternelles. Mon mari est militaire et à son premier départ en mission, Elena était trop petite pour se rendre compte de son absence. Il repart bientôt et elle aura 15 mois. J'aimerais savoir quoi mettre en place à la maison pour lui faire penser à son papa et qu'elle le reconnaisse bien à son retour. Merci beaucoup.
Alors, en fait, il ne faut pas qu'elle s'inquiète du tout, parce qu'à cet âge-là, les enfants, dès que le parent revient, les enfants reconnaissent très vite le parent qui a été absent. À cet âge-là, il n'y a vraiment pas de difficulté. D'abord, l'enfant habite dans la maison où il y a le parent, donc il y a des photos, on parle de lui, tout ça, ça suffit. Il ne s'agit pas de rendre l'absent hyper présent. C'est pas très adapté. Mais simplement, le soir, envoyer un bisou au ciel, le bisou va aller vers les étoiles, papa, il les voit aussi, ça fait un petit pont, un petit arc-en-ciel.
Oui, c'est pas mal de dire qu'il voit la même lune, il voit les mêmes étoiles, voilà. Et tout. Oui,
exactement. Ça crée un pont, un lien qui suffit pour les enfants.
Nouvelle question d'une femme de militaire, c'est Angelina.
Bonjour tout le monde. Alors moi, j'aurais une question par rapport à ce qui a pu nous arriver. Je suis donc femme de militaire et pendant une OPEX en Afrique, en pleine conversation vidéo avec mon mari, nous avons été coupés par un bruit très fort. J'ai eu très peur. Pendant donc 3-4 semaines, je n'ai pas eu de nouvelles de mon mari. Par chance, il allait bien. Et tout se passait bien. Mais ma question serait, si jamais il venait arriver un malheur à mon mari, comment intervenir, quels mots utiliser auprès de mes enfants? Voilà. Bonne journée.
Et alors, on imagine, je suis sûre, je ne pourrais pas être femme de militaire.
Et puis passer 3-4 semaines sans nouvelles, ça paraît quand même insupportable.
Juste après, une conversation comme ça qui a été interrompue.
Ben oui, d'abord, ça fait partie de leur quotidien. Mais ce qui est important, c'est que le couple, à la base, puisse parler de la mort. Alors, je dirais pas que pour les militaires, en fait, pour de vrai. Mm-hmm. Pour tout le monde, la mort doit pas être tabou. C'est important de pouvoir s'y préparer. Alors, de pas surdramatiser, mais quand même de se dire, bon, qu'est-ce que tu veux, toi, si jamais tu décèdes? L'incinération, l'enterrement où? Chez tes parents, chez nous, ici. Voilà, il s'agit quand même de rentrer dans quelques petits détails. C'est sûr que c'est pas très glamour, mais c'est nécessaire, parce que quand ça arrive, le parent qui est vivant, eh bien, il est accompagné par cette pensée. Ça fait sentiment continu de sécurité quand même, et il sait ce qu'il doit faire, et ça, c'est important. Alors, si une mauvaise nouvelle arrive pour les enfants, je conseille aux parents qui doivent annoncer la nouvelle d'abord de ne pas se précipiter. Il n'y a pas d'urgence, il y a de l'importance à ce moment-là. Mmh. Donc, il faut bien être entouré pour pouvoir annoncer ça aux enfants. Pas forcément seul, d'être à deux, c'est très bien. Parce que si le parent n'arrive pas à aller au bout de sa phrase, l'autre adulte qui est là, qui est quand même un peu plus en retrait, même si pour lui c'est quand même impactant cette situation, il va pouvoir prendre le relais. Si un enfant quitte la salle, il faut un adulte qui va le suivre. Donc, prendre le temps, préparer ça en couple et être accompagné pour le faire.
Valéria nous dit « Mon mari est pompier. J'essaye de ne pas montrer mon stress à ma fille, mais elle doit le sentir parfois. Comment repérer les signes de détresse émotionnelle chez un enfant qui ne parle pas encore ?»
Alors, chez le tout-petit, il s'agit en fait de repérer son rythme. Dès que le rythme change chez l'enfant, dès qu'il y a un changement, on peut se douter qu'il y a quelque chose qui le préoccupe. Donc, le rythme qu'on connaît de son enfant, la façon dont il a de s'endormir, les horaires, la façon dont il a de manger, etc., eh bien, ça peut faire signe de détresse. Après, il y a aussi sur la peau. Hein, on peut avoir des irritations qui
de
font
l'eczéma,
son signe.
Par exemple, il y a du stress.
Oui, des eczémas. Oui, toutes les réactions finalement sur la peau, tout ce qui va être un peu inflammatoire, va être signe de début de détresse psychologique.
Pauline vous dit « J'ai déprimé après la naissance de ma première. Mon mari était absent et je m'inquiétais pour lui. Cette situation augmente-t-elle le risque de dépression du postpartum et comment la prévenir ?»
Alors, le risque de dépression de postpartum, elle est augmentée par tout ce qui va être situation, accident, mauvaise nouvelle, voilà, choc, blessure, etc. Oui, c'est vrai que la réalité de ces situations augmente la dépression de postpartum. Mais en fait, pour prévenir, il s'agit d'abord de ne pas surpsychiatriser la situation. Il s'agit de pouvoir travailler sur le stress de la maman, plus que sa dépression. Qu'elle soit vraiment dans un état de confort pendant sa grossesse, pendant son accouchement, tout ça c'est en lien avec la préparation. La préparation d'être bien entourée et d'avoir bien préparé avec son mari tout ce qui peut se passer, s'il est là, s'il n'est pas là, et quel est le réseau de soutien qui va être mis en place autour d'elle.
Oui,
ça c'est important.
Alors, est-ce qu'on peut parler des militaires eux-mêmes? Parce que quand on revient d'une mission de 6 mois dans un pays en guerre, où on est en hypervigilance constamment, où on, voilà, et qu'on arrive dans le cocon familial, pour eux aussi, c'est un temps d'adaptation compliqué. Ils ont un petit sas d'une semaine, il me semble,
alors,
avant d'entrer à la maison.
Oui, pour certaines unités, je sais qu'il y a des sas de décompression.
À l'étranger, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas avec le Covid, mais...
Il y a eu des sas, oui, à l'étranger, à Chypre voilà, ou d'autres endroits. Actuellement, je sais que ce n'est plus Chypre, mais c'est un autre endroit.
Enfin, peu importe, ils ont cette petite période pour...
Voilà, ils ont cette petite période qui est bien recommandée, mais parfois, il y en a qui quand même passent entre les mailles, ça arrive aussi. Mais quoi qu'il en soit, le retour en famille, il reste quand même difficile. Il faut laisser un temps d'adaptation au mari. Il est là physiquement, souvent on dit, mais il n'est pas encore complètement là psychologiquement.
Grégoire vous dit, ma femme est militaire. À partir de quel âge un enfant peut-il comprendre un appel vidéo? J'ai essayé avec ma fille, mais ça la perturbe. Quand on raccroche, elle cherche sa maman dans la maison.
Oui, les enfants petits, ils ont besoin de concret. En fait, ils ont besoin de manipuler les réalités. Et une image vidéo, c'est pas assez concret pour
ça
eux.
Ça peut être contre-productif, non, même
ouais,
presque.
Oui, complètement. Ça peut vraiment les agiter, en fait. Donc, ils n'arrivent pas à maîtriser, en fait, la situation. Et ça les agite.
C'est autour de quel âge?
Ah, bah alors ça dépend quand même des enfants. Parce qu'il y a des enfants qui sont hyper compétents avec l'objet virtuel. Mm-hmm. Et puis, il y en a d'autres où ça les perturbe plus longtemps. Donc, mais bon, tout petit, les bébés, etc., on laisse tomber ça, c'est pas la peine. Par contre, on va raconter. Papa m'a dit que... voilà, tiens, papa, il a dit qu'il aimerait bien un gâteau pour quand on rentre. Eh bien, tiens, on va faire un gâteau. Donc là, on est vraiment dans le concret. Mm-hmm. On est aussi dans la projection du futur. Le piège, c'est de rester dans le passé, dans l'absence, et ce qui va apporter une ambiance un peu mortifère. Alors que si on a un pied dans le présent, un pied dans le futur, là, on dépasse l'angoisse et on tire des perspectives pour sortir d'une situation anxiogène. Mm. Et ça parle aux enfants.
On peut faire avant aussi. Faire des tests avant que le militaire soit parti.
L'appel vidéo, pour l'habituer, vous voulez
dire ? L'appel vidéo, mm-hmm. pour l'habituer un peu.
Ouais. Mm-hmm.
Comme ça, il sait que le parent va revenir. C'est des choses qu'on fait parfois, ça peut marcher.
Oui, c'est ça qu'en fait, on fait le test alors que le
Et puis le papa est là le soir même ou une heure après, il va se mettre dans un autre appartement, des choses comme ça. Mm-hmm. Un peu comme quand une maman va aller accoucher, on fait aussi un peu la même chose. On fait des petits tests comme ça, de vidéo. Mm-hmm. Ah, la permanence de l'objet, c'est-à-dire la permanence du parent, qui lui va s'absenter.
Il y avait un militaire qui m'avait confié une petite astuce. En fait, il avait pris un doudou de la chambre de son enfant et sur l'appel vidéo, il l'avait placé à côté de lui.
D'accord.
Et l'enfant, en fait, il voyait son doudou avec papa et du coup, ça créait cette connexion.
C'est ça, c'est pas mal, ça, oui.
Est-ce que l'armée accompagne ces militaires sur ces questions-là, familiales?
Alors, je ne peux pas parler à la place de l'armée, mais effectivement, il y a des psychologues militaires. Le SAS, il est fait avec les psychologues militaires pour aider les militaires à réintégrer leur famille. Ils sont présents aussi pour les familles, ces psychologues. Mais c'est vrai qu'il y a un psychologue pour énormément de monde, donc je crois que c'est pas très...
Et puis faire état de fragilité n'est pas toujours bien vu quand on est en mission, j'imagine.
Alors, moi, je pense que pour les militaires, comme pour d'autres situations, quand il y a un psychologue au sein de l'institution, c'est très bien, mais c'est bien qu'il y ait un relais aussi à l'extérieur, parce que ça permet d'ouvrir le choix pour le militaire, de faire appel soit en interne, soit en externe, et ça favorise l'accès aux soins, l'accès à la thérapie si besoin.
Et alors pour la famille, en revanche, il y a des agents de liaison qui font le lien entre la famille et quand justement le père ou la mère est en mission, loin, qu'on n'a pas de nouvelles. En théorie, ils ont... Parce que le témoignage de tout à l'heure, il nous a quand même tous un peu laissé pantois. Quatre semaines sans nouvelles après un choc.
Oui. Il y a des agents de liaison au sein de l'armée. Il y a un officier bureau environnement qui est là, dont il a la charge d'être au contact.
Pour dire vous inquiétez pas, tout va bien.
Il y a les assistantes sociales aussi à l'armée qui peuvent aider les familles, qui se rendent aussi au domicile des familles. Mais après, c'est vrai que le plus important, c'est de lever les interdits aussi au sein de la famille, parce que parfois dans les familles, on dit surtout tu n'appelles pas, tu ne fais pas de problème aussi me concernant. Oui. Et du coup, ça prive la famille quand même d'un relais d'information.
Clémence vous dit, mon mari est rentré de mission après plusieurs mois d'absence. Mon fils de 18 mois se cache derrière moi quand il le voit. Il ne veut plus aller dans ses bras. Que peut-on mettre en place pour l'aider? C'est vrai que ça doit être une situation très difficile à vivre pour le papa qui rentre, même pour la maman qui peut-être se sent coupable aussi.
Oui, puis en plus, on est tous informés là, des vidéos oui. américaines où on voit des enfants qui sautent dans les bras de leurs parents. Donc, quand le sien ne le fait pas, suis-je un mauvais parent ?
En plus, c'est fait à l'américaine, généralement. Il y a la musique, il y a le monde derrière, des pétards.
Puis on montre que les enfants qui font ça.
Oui, on ne montre pas les autres.
Bon, bah, en fait, il faut juste rappeler que ce n'est pas très grave. Et en fait, les enfants, même s'ils sont sensibles au stress, ils sont aussi très sensibles à la réassurance affective. Et ça passe dans les quelques temps. Ce qu'il faut, c'est insister sur la réassurance affective. Donc le parent va passer du temps avec l'enfant, mais sans l'obliger, sans le culpabiliser, en le laissant venir. Il va peut-être un peu se cacher, ben, jouons un cache-cache, hein, c'est pas grave. Oui. Et ce qui va compter aussi, c'est l'alliance entre les parents. C'est-à-dire, il va voir ses parents se connecter, il va voir que maman est rassurée, elle est détendue avec cet homme-là, tiens, c'est intéressant. Donc il a l'air pas trop mal, et finalement, il va revenir vers le parent, et ça se passe assez bien en général.
Voilà, merci beaucoup à Nadia pour son témoignage avec Agathe Le Caron et merci infiniment à Sabrina Varvara pour son décryptage. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. Je précise, si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, vendredi, on est le vendredi 10 décembre, et bien demain, il y aura un nouvel épisode du podcast des maternelles, un inédit dans une maternité pour savoir comment on accouche aujourd'hui en pleine cinquième vague du Covid, quels sont les protocoles, comment ça se passe avec les papas, comment ça se passe avec les masques, qu'est-ce qui est mis en place pour que tout se passe le mieux possible. Donc samedi, ne manquez pas cet épisode qui, je vous le dis tout de suite, sera rassurant. Voilà, soyez-en bien sûr. À bientôt tout le monde, on se retrouve sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, si vous souhaitez me suggérer des thèmes pour en faire des podcasts. Ciao tout le monde.